Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Tiens, on va s'intéresser aujourd'hui aux routiers et à l'histoire du Portugal. Ce sont deux sujets différents. Il y aura évidemment le journal des médias de Martin Cangelosi, qui est en train de noter les audiences télé, le journal de la culture d'Hélène Manarino. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média avec Street Press. Ces révélations ont poussé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à saisir la justice. Street Press, c'est un site internet de reportages et d'enquêtes qui a révélé l'existence de ce groupe Facebook de 8000 membres, groupe réservé aux forces de l'ordre, dans lequel se sont échangés des messages racistes, sexistes ou homophobes. Sa co-rédactrice en chef sera à ce micro. Nous invitons ensuite Jacques Cardoz pour son émission Complément d'enquête, qui pose ce soir sur France 2 cette question iconoclaste. Et si c'était la fin de la télé, faut oser faire ça à la télé. Enfin, une star mondiale de la BD, je pèse mes mots, Enki Bilal, pour un livre totalement déjanté. Ça s'appelle Nu avec Picasso. Il y aura en prime son portrait inattendu, mais il sera habillé. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous.
Et bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place au journal des médias, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Un gros dossier sur les médias en pleine crise après la mort de George Floyd. On vous dira aussi pourquoi c'est important, rien à voir d'avoir une belle cuisine pour trouver l'amour. Et puis cette question, la carte vitale sera-t-elle bientôt obligatoire pour regarder des films porno?
Et c'est pas une question rhétorique, c'est authentique. Ne manquez pas la fin de ce journal. On va démarrer par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
TF1 et M6 au coude à coude. TF1 premier avec sa série médicale de Resident, 4,2 millions de téléspectateurs, 16,4% du public. Juste derrière, M6 avec Top Chef, 3,9 millions de Français devant Top Chef, 15,6% d'audience. Et puis juste derrière, on en parlait hier chez vous, Philippe, France 2 qui lançait sa série Romance, c'était le premier épisode. 2,7 millions de Français l'ont regardé, 10,9% du public.
Culture Média.
Et on continue ce journal des médias avec la mort de George Floyd qui continue de générer des conséquences sur les médias du monde entier et un chef-d'œuvre du cinéma qui pourrait ne plus passer à la télé.
Alors ce chef-d'œuvre, un indice, c'est une histoire d'amour dans une plantation de coton du sud des États-Unis.
Trop facile.
Nous sommes au temps de la ségrégation raciale.
Je suis sûre que vous m'aimez au fond de vous-même. Vous m'aimez, n'est-ce pas?
Oui, Scarlett, c'est vrai.
Philippe, comme tous les Philippe, j'imagine que vous êtes cinéphile, vous aurez reconnu...
Autant en emporte le vent.
Effectivement, c'est l'une des scènes cultes d'Autant en emporte le vent, sauf que vous ne pouvez désormais plus voir Autant en emporte le vent sur la plateforme d'HBO, la plus grande chaîne du câble aux États-Unis. Le long métrage a tout simplement été retiré. Les Noirs, je cite, sont présentés comme des enfants et comme des benets. HBO est tout de même en train de réfléchir à comment remettre ce chef-d'œuvre en ligne. La chaîne va mettre un message d'avertissement avant le long métrage. Avec ce rappel, le film a été tourné en 1939, avec les mœurs de l'époque donc. Ne pas censurer, mais expliquer, nous dit-on, chez HBO. Surtout qu'Autant en emporte le vent n'est pas n'importe quel film. Le livre éponyme qui l'a précédé a reçu le prix Pulitzer. Et selon un classement très sérieux de l'American Film Institute, le long métrage, 4 heures tout de même, a remporté 8 Oscars et c'est le 4e film préféré des Américains.
Et c'est un retrait qui fait également beaucoup parler en France.
Depuis quelques heures, les tribunes de philosophes, d'essayistes ou de commentateurs SM dans la presse française, dans Le Figaro, dans Le Point notamment, Yann Moix va jusqu'à dénoncer un hygiénisme historique, ce sont ces mots. Même la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, n'est pas d'accord avec la décision d'HBO, c'est dire, et parle même de censure. Je vous cite son tweet, l'un des plus commentés et repris hier. « Ceux qui veulent censurer Autant en emporte le vent exigeront-ils aussi qu'on retire à l'éblouissante Hattie McDaniel son Oscar ?» Le premier attribué à une actrice afro-américaine pour son rôle dans ce film magistral. Vous le voyez, des polémiques et des polémiques.
Un film retiré donc temporairement en tout cas et pas partout, et des séries qui également subissent le même sort.
La BBC au Royaume-Uni ouvre le bal avec Little Britain. Little Britain, c'est l'une des séries les plus populaires outre-Manche. Elle est diffusée au début des années 2000, mais elle est multi-rediffusée depuis et fait même maintenant un carton sur Netflix à travers le monde. Les personnages, ce sont des Anglais, caricaturaux, grossiers... Mais hilarant. Problème, beaucoup de passages mettent en scène des blackface, vous savez, ces blancs qui se griment en noir pour mieux s'en moquer. En quelques heures, la BBC et Netflix ont supprimé tous les épisodes. Aux États-Unis aussi, plusieurs séries sont en train d'être déprogrammées du câble, comme Cops. On les accuse de faire des policiers blancs à des héros, alors que les Noirs, ils sont toujours des délinquants.
Et puis même les plateformes musicales sont priées de faire attention désormais.
Effectivement, les labels sont en train de bannir de leur playlist la catégorie Urban Music, musique urbaine. Raison invoquée, urban, surtout en anglais, cela fait trop référence aux ghettos noirs, aux cités ou aux métropoles violentes. Écoutez ceci. C'est le nouveau son de Drake, To See Slide, sorti il y a un mois et demi. C'était jusqu'à hier l'un des titres les plus écoutés de la rubrique Urban, justement. Ce titre de Drake, il est produit par Universal Music. La branche américaine d'Universal a été l'une des premières à dire stop, tout comme Warner Music. Bref, ce sont les plus grandes maisons de disques du monde entier qui ne veulent plus de ce mot urban music. Les plateformes comme Spotify ou Deezer sont priées de suivre au plus vite. Les artistes américains noirs eux-mêmes montent au créneau pour dire ça suffit. Ils veulent désormais être classés tout simplement soit dans les catégories hip-hop, soit R&B, soit rap.
C'est d'autant plus savoureux que musique urbaine avait été mise à la place de rap qu'on trouvait à l'époque stigmatisant. On termine ce focus avec Twitter qui a voulu s'associer à sa façon à ce mouvement.
Le 19 juin aux États-Unis, on célèbre l'abolition de l'esclavage. On appelle ça outre-Atlantique le jour de l'émancipation de l'esclavage. C'est une journée de mémoire et de commémoration comme il y en a beaucoup. Mais cette journée est travaillée. Twitter vient d'annoncer que désormais ce serait un jour férié pour tous ses salariés à travers le monde.
On revient à la télévision, le retour d'une émission mythique que vous nous annoncez.
Big Brother, qui en France s'appelait Love Story, revient sur la chaîne néerlandaise RTL Dutch. 14 ans après en avoir disparu. Personne ne s'attendait à ce retour à la maison, pourrait-on dire, parce que c'est en Hollande, en septembre 1999, que Big Brother voit le jour. À l'époque, on parle de télé poubelle pour cette toute première télé-réalité d'enfermement. Les temps ont bien changé. On démolle l'annonce. Big Brother pourrait faire son grand comeback un peu partout en Europe. Ces derniers mois, 8 pays l'ont déjà ressuscité, dont le Portugal ou l'Allemagne. Il y a même 3 pays où Big Brother ne s'est jamais arrêté, chez nos voisins italiens et espagnols, et chez les Américains.
Et quid de la France ?
Alors en France, depuis Love Story, il y a eu Nice People ou Secret Story, mais aucune version n'a fait aussi bien que celle avec Loana, avec Jean-Edouard et avec la piscine.
Évidemment.
Pour l'instant, Endemol n'a pas prévu de ressortir le loft de ses cartons. Mais Alexa Laroche-Joubert, qui était votre invité la semaine dernière, Philippe, penche plutôt sur un autre type de télé-réalité, inspiré de sa vie en confinement.
J'ai fait une rencontre juste avant le confinement et où il ne s'est absolument rien passé, mais je me suis retrouvée à parler pendant 5 semaines avec ce garçon. Et au bout de 5 semaines, il s'avère que comme je n'étais plus contagieuse et que lui était ça, nous sommes embrassés.
Alors on peut vous révéler ce matin en avant-première le nom de cette émission, c'est Rendez-vous dans 40 jours. On peut vous révéler aussi que le groupe TF1 est très très intéressé. Alexia Laroche-Joubert a bien voulu nous en dire un peu plus sur le concept.
On va suivre différentes personnes et on va faire au début une sorte de speed dating et puis à un moment on va décider, enfin la personne va décider, de choisir un potentiel partenaire et on va aller dans la profondeur des choses. Mais la profondeur, c'est, moi il y a un truc qui m'a beaucoup amusé, c'est de voir le background des gens dans les visioconférences, de voir où ils habitent. On n'a jamais ça lors d'un premier rendez-vous.
C'est bien que Philippe, Céline, je ne sais pas comment va être cuisine, mais Alexia Laroche-Joubert nous a même avoué qu'elle pouvait trouver très sexy de voir sur Skype ou sur FaceTime la cuisine en arrière-plan d'un prétendant. Ça en dit beaucoup sur l'autre, nous dit-elle.
On continue à parler d'amour, mais différemment. On apprend ce matin que pour regarder du porno, c'est très sérieux. Il faudrait bientôt prouver son âge et ça va plus loin.
Emmanuel Macron en parlait déjà pendant sa campagne présidentielle. C'était il y a 3 ans. Cela fait des mois que le gouvernement plonge dessus. Les sénateurs viennent de dire OK. Jusqu'à présent, pour regarder un film classé X sur Internet, vous n'avez qu'à répondre à une seule question. Avez-vous plus de 18 ans ? Oui ou non ? Vous n'avez qu'à cliquer sans aucun contrôle sur votre âge réel. Bref, n'importe qui peut mentir. Le gouvernement veut y remédier parce qu'il y a un chiffre que l'on ne veut plus voir au plus haut sommet de l'État. En France, c'est à 14 ans et 5 mois très exactement en moyenne que l'on regarde pour la première fois un film pour adultes.
Et comme c'est une moyenne, ça veut dire que ça peut être beaucoup, beaucoup plus jeune. Et si on en parle ce matin dans Culture Média, c'est que l'info va beaucoup plus loin.
On pourrait bientôt avoir besoin de sa carte vitale pour regarder du X. Le gouvernement, au début, pensait utiliser la solution de la carte bancaire pour regarder des films pornographiques. Il aurait suffi de s'identifier avec sa carte bleue, à votre banque, en quelque sorte, ensuite de confirmer au site que vous êtes majeur. Trop risqué finalement de donner de telles données à des sites bien souvent à l'étranger et donc incontrôlables. L'une des solutions serait de passer par France Connect.
C'est quoi France Connect ?
Alors, France Connect, vous l'utilisez sûrement de plus en plus sans forcément le savoir. C'est un identifiant unique qui vous permet de faire tout un tas de démarches sur Internet. Ça peut être cet identifiant, votre numéro de sécurité sociale qui figure donc sur votre carte vitale ou même votre identifiant fiscal.
Non.
Utilisez le même login et le même mot de passe pour payer vos impôts que pour regarder des films pour adultes, il fallait y penser.
T'imagines, le contrôleur des impôts dit « Non, monsieur Cangellosi, vous êtes couché tard hier soir.
Ouais, »
Merci Martin. Ah tiens, elle n'avait rien dit, Céline Dacosta, elle est là. Dès que ça parle d'un sujet, on vous retrouve demain, Martin Cangellosi, pour un nouveau journal des médias.
À suivre l'info média du jour avec au programme Street Press, média d'info en ligne à l'origine des révélations sur un groupe Facebook de policiers partageant des propos racistes. On en parle avec sa rédactrice en chef adjointe Inès Belgacem dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est alors Philippe de l'Info Média du jour.
Ces révélations ont poussé Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, à saisir la justice. Street Press, un site internet de reportages et d'enquêtes, a sorti il y a une semaine tout pile un article qui fait encore grand bruit. Il y révèle l'existence d'un groupe Facebook privé, groupe de 8000 membres, réservé aux forces de l'ordre, où seraient échangés des messages haineux, racistes, homophobes ou sexistes. Révélation dans un contexte particulier où le racisme au sein de la police est au cœur de l'actualité, aux États-Unis suite à la mort de George Floyd, mais également dans le reste du monde, où des manifestations ont lieu dans de nombreux pays, dont la France. Pour revenir sur ces révélations et parler de ce média Street Press, donc, nous recevons sa rédactrice en chef adjointe. Bonjour Inès Belgacem.
Bonjour.
Il y a notre chronomètre qui tombe. Vous saviez que vous teniez avec cette info-là un matériau très sensible. Est-ce que vous attendiez à ce que cet article de Street Press, qui est sorti jeudi, ait autant d'écho et remonte jusqu'au ministre en personne ?
Bah, on est très content que le racisme dans la police et les violences policières soient un débat aujourd'hui en France. Après, pour être honnête, pas forcément sur Street Press, on traite de ces questions de discrimination, de racisme, de sexisme, d'homophobie, de violences policières toute l'année. On doit sortir un article par semaine sur ces sujets. Et là, effectivement, il y a un plus grand retentissement que d'habitude. Je suis pas sûre qu'on s'y attendait, mais en tout cas, on est très content que ça devienne un débat.
Alors je vais le dire, suite à vos révélations, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a réagi. Dès le lendemain de vos révélations, donc le vendredi, il a saisi la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour, je cite, « injure publique à caractère raciste et provocation publique à la haine raciale ». Et lundi, Christophe Castaner a tenu une conférence de presse. Il a notamment déclaré ceci.
Aucun accro à la déontologie ne peut être toléré. Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme. Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'acte ou de propos racistes.
Suspension systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'acte ou de propos racistes. Il y a une confusion dans les termes, parce que si c'est un soupçon, il n'est pas avéré. Si c'est avéré, ce n'est pas un soupçon. Mais ouais. En tout cas, est-ce que vous espériez cette ouverture d'une enquête et cette réaction du ministre de l'Intérieur ?
Encore une fois, nous on est contents quand nos articles ont un impact et qu'il se passe quelque chose, oui. Après, Christophe Castaner continue à parler de brebis galeuses. Nous, on considère qu'aujourd'hui, la police est un système qui ne fonctionne pas bien. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous égaux devant la police. Là, on parle de racisme. Donc peut-être pour refaire l'enquête, on sortait jeudi dernier un article qui expliquait que sur un groupe Facebook privé, il y avait 8000 personnes sur ce groupe issues des forces de l'ordre, parce que pour y rentrer, il faut donner soit son matricule de police, soit son école de police ou de gendarmerie, baragouiner quelques mots dans le jargon de la police. Et sur ce groupe Facebook, bah, ça commente l'actualité avec des commentaires racistes, sexistes, homophobes. Il y avait par exemple...
On va parler du cœur, mais puisque vous, pour reprendre le terme que vous repreniez du ministre, vous parliez de brebis galeuses. Ouais. C'est-à-dire que c'est une minorité. Ces 8000 personnes, c'est pas toute la police non plus. Ou est-ce que vous voulez dire que ces 8000 personnes sont représentatives de l'ensemble des forces de l'ordre, police et gendarmerie ?
Alors déjà, il y a ce premier groupe de 8000 personnes, on a trouvé un deuxième de 9000 personnes. Je pense que si on cherchait, il y en aurait sûrement d'autres. Et par ailleurs, là, on parle de commentaires racistes, de commentaires haineux, mais ça a des répercussions dans la vie. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du contrôle aux faciès. Bah, ces propos racistes, ça entraîne du contrôle aux faciès. Ça peut entraîner le fait qu'on n'est pas tous égaux devant la police. Si on est blanc, noir, arabe, asiatique, qu'on vient de banlieue ou pas, on n'est pas égaux et on n'a pas les mêmes traitements avec la police. Et le bout de tout ça, ce sont les violences policières et il y a des morts. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup en ce moment de Adama Traoré, le frère de Assa Traoré. Il y en a des dizaines comme Adama. Nous, on tient un décompte des morts de la police. Pour faire ce décompte, on a pris tous les gens qui n'étaient pas armés d'armes à feu. Mmh. On le tient depuis 2007 jusqu'à 2019. On a décompté 60 morts de la police. Et aujourd'hui, il y a encore des affaires en cours. Il n'y a aucune condamnation de policiers.
On va revenir sur l'article en lui-même. Comment Ronan Mael, le journaliste à l'origine de l'enquête, a-t-il mis à jour l'existence de ce groupe Facebook privé ? Je donne le nom TN Rabio Police Officielle.
Ouais. Ronan est venu avec ce sujet nous voir et nous a dit « Voilà, j'ai infiltré un groupe Facebook de policiers. » Infiltré parce qu'encore une fois, il fallait un matricule pour rentrer ou une école de police.
Donc il avait un vrai matricule, un faux matricule. Comment a-t-il fait ?
Il a sorti une école de police, je crois, et quelques mots dans le jargon. Il y a aussi, par exemple, des épouses de policiers dans ce groupe. Donc ça, c'est aussi des proches des forces de l'ordre. Et il a observé pendant plusieurs semaines ce qui s'y passait, les débats sur l'actualité, à peu près tout ce qui se passe est commenté.
On va entendre un son. Ouais. Le groupe, je le rappelle, qui comptait 8000 membres au moment où est sortie votre enquête, parce que maintenant, il y a plein de membres de ce groupe qui s'en désolidarisent et qui quittent le groupe. Voici le type de message que Ronan Mael, le journaliste à l'origine de l'article, a pu lire.
Tous les prétextes sont bons pour ces gogoles, ces sans-cerveau, ces ramassis de chiottes, finis à la pisse. Une pouffe, on appelle une autre, plein le cul de ces racistes anti-blancs. Toujours la même merde qui brave tous les interdits dans ce pays, les gauchasses puants et les immigrés. Elle aurait dû rester sur le trottoir, cette pute. Un bon rassemblement de pulapis et de bobos gauchias qui vivent dans le monde des bisounours. Laisse-les faire, ça purge le pays. C'est essentiellement l'actualité de la sécurité publique, donc des articles qui sont relayés sur l'actualité. Donc récemment, il y a eu les manifestations, ça peut être sur les propos de Camille Jordana. Tout ce qui concerne la police est diffusé et ensuite commenté et entre guillemets débattu.
On entend un court extrait, le reportage dure combien de temps ?
Le reportage, c'est dire, il y a un article, ouais. Une enquête, ouais. Et on a aussi fait une vidéo pour expliquer cette enquête qui dure, 4 minutes, quelque chose comme ça.
Lundi, vous avez remis ça, on va en parler juste après ça, vous restez avec nous, Inès Belgacem.
Street Press est le site d'info qui a révélé jeudi dernier une enquête révélant que des milliers de fonctionnaires de police partageaient des messages et des montages racistes dans un groupe Facebook. Que s'est-il passé depuis ? On continue à en parler avec notre invité dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Dans notre infomédia du jour, on fait le point ce matin sur l'affaire du groupe Facebook où des policiers partagent des messages racistes, sexistes ou homophobes. On en parle avec Inès Belgacem, la rédactrice en chef adjointe du site d'information Street Press qui a révélé cette enquête, Philippe.
Vous faites allusion au papier sorti jeudi qui a tout de suite généré une réaction du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Et puis lundi, vous avez remis ça avec un second article dans lequel vous révéliez l'existence d'un autre groupe Facebook dans lequel des policiers échanger là encore des messages racistes, 9000 membres, mais cette fois-ci vous n'avez pas eu beaucoup à chercher, c'est un policier qui vous a directement contacté.
Absolument, à la suite de l'article on a eu beaucoup de messages dont des policiers qui expliquaient que oui, ils avaient entendu des propos racistes et qu'il y avait un autre groupe qui était plus gros, parce que le premier était de 8000, celui-là est de 9000, qui existait. Cette fois, on n'a pas pu l'infiltrer. Ce groupe-là est un peu plus compliqué parce qu'il est à la fois privé, donc fermé, et il est secret. C'est-à-dire que si on n'est pas invité, coopté, on ne peut pas trouver ce groupe sur Facebook. Et c'est ce policier qui nous a alertés, qui nous a envoyé des centaines de captures d'écran, qu'on a pu interviewer. Et c'est grâce à lui qu'on a pu sortir ce papier où on y retrouve à peu près les mêmes messages que sur le premier.
Quel genre de message ?
Par exemple, on parle de Gabriel. Gabriel, c'est un enfant de 14 ans à Bondy qui s'est fait, j'ai pas d'autre mot que massacré par la police. Il essaie de voler un scooter. Il s'est fait embarquer. Et il s'est fait casser 4 dents. Il avait l'œil totalement tumifié. Je crois qu'il a failli perdre son œil.
On a vu l'image sur les réseaux sociaux.
Absolument.
C'est celui qui avait son œil totalement tumifié.
Exactement, bleu, énorme. Mmh. Et il a 14 ans, il pèse 50 kilos. Imaginez la petite chose.
Et je vais vous dire, je vais me faire l'avocat de tous les gens qui nous écoutent, une grande partie de gens. Il était quand même en train de voler un scooter. Je ne justifie rien, mais il était en train de voler un scooter.
Aujourd'hui, on vole un scooter, on est embarqué par la police, on est jugé. Gabriel, il a failli se faire crever un œil et il a perdu 4 dents. À 14 ans. C'est anormal.
Quel autre genre de message pardon, il y avait sur ce groupe?
Par exemple, sur Gabriel, il y avait des fonctionnaires de police qui expliquaient « bien fait pour lui, on aurait qu'à, les collègues n'avaient qu'à lui crever le deuxième œil ». C'est extrêmement violent. C'est anormal. Il y a aussi des commentaires sur le fait qu'il a l'air d'être d'origine serbe, il a l'air rome, ça infeste les pays de l'Est, les Roms infestent. C'est des commentaires extrêmement haineux, extrêmement racistes et qui sont intolérables dans la bouche des forces de l'ordre.
Je reviens au premier groupe Facebook, TN Radio Police Officielle, dont vous avez révélé l'existence. Il est toujours actif et en ce moment même, ces jours-ci, il discute de la parution de votre article et de la réaction de Christophe Castaner. Street Press a publié un article hier à ce sujet. Racontez-nous ce qu'ils en disent.
On a fait le suivi pour savoir si s'était passé quelque chose, si le groupe avait été fermé. Le groupe n'est pas fermé, le groupe est toujours actif. Il y a 1000 personnes qui sont sorties du groupe, dont un des gérants du groupe. Mmh. Il en reste une. Et il y a aussi, ils ont aussi eu beaucoup de messages de soutien d'autres collègues de force de l'ordre. Alors, il y a 4000 personnes qui ont voulu rentrer dans le groupe et ils ont évidemment commenté l'article et commenté tout le débat public qui se passe aujourd'hui autour de ces questions.
Alors que disent-ils de vous, de Street Press?
Ils réfutent que ce soit des propos racistes. Par exemple, dans le premier article, on parlait de la manifestation qui a été organisée par le comité pour Adama et on sortait les commentaires qu'ils écrivaient. Et ça disait « c'est noir de monde, c'est noir de merde, on dirait pas qu'on est en France ». Donc c'était par rapport aux couleurs de peau des manifestants.
Et ils réfutent que ces termes-là soient des termes racistes?
Ils plaident l'humour et ils disent, alors je lis, j'ai pris le texte sous les yeux, « putain de journaleux de mes couilles qui ne connaît pas l'expression noir de monde, donc il faut interdire du langage comme radin, comme un juif, c'est ça ». Donc en plus on prend un exemple antisémite pour dire que ce n'est pas raciste. Et ça continue comme ça. Du coup, gras comme un porc, ça atteint à leur religion aussi. Et les commentaires continuent comme ça. Ils ont aussi continué un peu à parler de l'actualité. Ça continue.
Comment ça se passe, Street Press? Comment vous définissez? Est-ce que vous êtes un média engagé? Est-ce que vous êtes un média militant? Sur votre site, vous définissez comme un média de terrain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps sur le terrain avec les gens et on creuse nos sujets. Nous, sur Street Press, on fait, vous l'avez dit, de l'enquête, du reportage, des documentaires aussi. Et on fait surtout du long format.
Ouais.
On passe beaucoup de temps. Nous, on publie un article par jour. On n'est pas dans le flux de l'info en continu. On n'est pas dans l'actualité chaude. On décide de mettre en avant des sujets. Quand on décide de passer, je vais rester sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui, quand on décide de parler du racisme dans la police ou des violences policières, de passer du temps avec les familles de victimes de violences policières et d'en publier des longs papiers ou des longues vidéos, c'est un choix éditorial que nous, on estime engagé. Et là est notre engagement de faire un choix sur nos sujets et d'être le plus transparent possible avec nos lecteurs, de dire nous sommes engagés, nous sommes de gauche, nous défendons des principes, l'antiracisme, l'antisexisme, etc.
Combien de journalistes et quel est le modèle économique de comment vivez-vous?
On est 7, on est 5 journalistes. Jusqu'à maintenant, on avait une boîte de prod accolée à la rédac qui faisait des contenus pour d'autres médias, pour des privés, etc.
Parce que le site est gratuit, l'accès est gratuit.
L'accès est gratuit et restera gratuit.
Alors comment vous vous payez?
C'est la boîte de prod jusqu'à maintenant. Et depuis un an, on a décidé de demander à nos lecteurs de nous aider. On a demandé de nous donner des dons mensuels. Alors c'est possible de venir juste donner un don. On a aimé un article, on donne 2 euros, 5 euros, 10 euros. Et c'est possible aussi de donner mensuellement et de nous aider chaque mois s'ils estiment comme nous que cette information est nécessaire dans le paysage médiatique.
Ça sera le mot de la fin. Votre phrase est en suspens, mais je reste là. On a bien compris votre travail. Merci beaucoup, Inès Belgacem. Vous êtes rédactrice en chef adjointe à Street Press. Ouais. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin.
Merci à vous pour l'invitation.
Sur Europe 1.
Notre prochain invité est Jacques Cardoz. Il présente ce soir sur France 2 son magazine Complément d'enquête avec cette question. Et si c'était la fin de la télé? Un début de réponse avec lui dans un instant sur Europe 1. 9h.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est ravis d'accueillir Jacques Cardoz.
Bonjour Jacques Cardoz.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes journaliste, vous présentez Complément d'enquête, émission d'enquête justement sur France 2. Ce soir à 22h50, vous tentez de répondre à cette question en forme de provocation. Et si c'était la fin de la télé? Question provocatrice, question rhétorique, ou alors vous avez vraiment l'impression de travailler pour un média, la télévision, qui est lentement en train de couler? La télé, c'est plus que vous avez connu?
Non, couler sûrement pas, mais c'est un secteur qui est en plein bouleversement. Il y a 10 ans, TF1, M6, France Télévisions, on se faisait la guerre. Aujourd'hui, on est ensemble dans Salto pour contrer l'émergence de ces plateformes. Netflix, Disney+, 180 millions d'abonnés d'un côté, 50 millions de l'autre. C'est vrai que quand on regarde les indices d'écoute par jour, les plateformes, c'est entre 5 et 6 millions de personnes chaque jour, alors que la télé linéaire, c'est entre 40 et 45. Donc on est largement gagnant, on est largement devant, mais on aurait tort de ne pas se poser la question comme ça, parce qu'on ne savait pas que les choses seraient comme ça il y a 10 ans, et personne ne sait comment ce sera dans 10 ans. Et puis le match a changé, parce qu'il y a aussi le match des écrans. On va en parler. On a une enquête sur un jeu vidéo qui est bien plus qu'un jeu vidéo. Et puis, il y a le temps d'antenne aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Internet et que vous êtes sur un jeu vidéo, bah, vous n'êtes pas forcément devant le capitaine Marlowe. Donc, ce temps d'écoute, il se réduit forcément. Donc, toutes ces questions, elles sont posées. Moi, je suis là pour... effectivement, c'est une question un peu provocatrice. Mais ensuite, on déroule la pelote sur une heure et demie dans l'émission et chacun se fera son idée, évidemment.
Et Salto, je le rappelle, c'est le Netflix à la française.
Absolument.
Créé par à la fois les groupes TF1, France Télévisions et M6. Il y a une histoire que j'aime bien raconter ici. Quand on a demandé au patron de Netflix s'il avait peur de la concurrence de Disney+, il a dit non, mon concurrent, ce n'est pas Disney, c'est Fortnite, le fameux jeu vidéo. Et puis, on verra un portrait aussi de quelqu'un très rare en télévision, le français Stéphane Courmi. Mais d'abord, Fortnite, en quoi un jeu vidéo peut remplacer la télé?
Mais tout simplement parce que son patron lui-même a des ambitions qui vont bien au-delà du jeu vidéo. Il a par exemple récemment organisé un concert de rap à l'intérieur du jeu vidéo. Il y avait 12 millions de personnes. Vous imaginez 12 millions de personnes, ça ferait rêver n'importe quel média.
Ouais.
Et puis parce que c'est un réseau social qui... c'est un jeu vidéo, mais qui tendrait à devenir un réseau social. Donc personne ne sait comment les choses vont évoluer. Est-ce que ce sont des jeux vidéo qui vont devenir des réseaux sociaux et qui vont devenir aussi un peu de la télé, des espaces où on va pouvoir voir des programmes qu'on ne verrait pas ailleurs? Ce public, en plus, c'est le public le plus difficile à capter. C'est les moins de 20 ans en particulier. Il n'y a pas que des moins de 20 ans, mais il y en a beaucoup devant Fortnite. Et s'il y a eu un concert de rap qui était organisé là, c'est parce qu'ils savent très bien que s'ils vont sur même des gros networks américains, l'audience ne sera pas la même.
On voit dans le sujet, le rappeur, c'est Travis Scott, et on voit un gamin de 14 ans qui dit mais on est complètement bluffé, c'est tellement beau, ils sont 12 millions à voir un truc sur leur télé et avoir l'impression d'assister au concert. Vous faites parler le créateur de Fortnite, c'est un américain, il s'appelle Tim Sweeney, et lui, il voit encore plus loin.
Dans les 10 prochaines années, je pense que l'on va voir le jeu vidéo devenir la première activité sociale. De plus en plus de gens décident de s'y réunir avec leurs amis et décident ensuite à quoi ils vont jouer. Ça veut dire que le jeu va devenir une plateforme de communication autant qu'un endroit où on s'amuse.
Alors, le jeu est gratuit, tout en étant payant. C'est un gros business. Racontez le principe des skins en quelques mots.
Waouh, je ne suis pas spécialiste. Non, le principe, c'est qu'on dépense des toutes petites sommes et que ces toutes petites sommes, évidemment, à la fin du mois, parce que comme c'est les parents qui payent, ça fait des chèques de 10, 20, 30
euros. Alors, je vais l'expliquer pour vous.
Ben oui.
On peut jouer gratuitement. Un quart des gens y jouent gratuitement, mais on peut aussi s'acheter des danses pour danser devant les autres, parce que les autres vous voient en train de jouer, ou s'acheter des fringues.
Et la fameuse danse de Griezmann, qu'on a vue partout, notamment pendant la Coupe du Monde. En plus, c'est un jeu, c'est un réseau social où on crée des choses qui ensuite vont se retrouver dans la vraie vie. Donc il y a une sorte de jeu pour les joueurs, entre ce qui se passe dans la vraie vie et ce monde parallèle. C'est pour ça qu'on a intitulé ce sujet « Le monde parallèle des ados ».
Et je le précise, la société Epic Games reverse également de l'argent aux joueurs. Ils organisent un tournoi tous les ans à Flushing Meadows. Le vainqueur touche 3 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il gagne plus que le tennisman qui a gagné Flushing Meadows, et le stade est plein. C'est complètement dingue. Netflix, il y a un sujet consacré à Netflix par votre journaliste Guillaume Coudert, qui dit ceci: face à un tel concurrent, notre bonne vieille télé va devoir s'adapter. C'est dommage, il ne dit pas comment.
Mais on connaît les réponses. Les réponses, c'est que on a des rendez-vous et on a des visages qui sont récurrents et qui sont la plus grande force de la télévision linéaire. Ce que ne pourra jamais faire les plateformes, ou alors, enfin peut-être que ça arrivera, mais c'est pas pour demain la veille, ouais. C'est qu'aujourd'hui vous avez des identités, vous avez des Nagui, vous avez des Stéphane Bern, bon, vous avez des identités et que le public a plaisir à retrouver à des horaires fixes. L'avantage des plateformes, c'est que vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Mais du coup, il n'y a pas ce lien social. Et puis, il y a des moments très forts. Vous vous rendez compte, l'intervention du président Macron, c'est 37 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire que c'est deux fois la finale de la Coupe du Monde de foot. Et dans ces moments-là, d'abord, la télé reste le loisir numéro un, mais dans ces moments-là, elle crée un lien social qu'elle est la seule à pouvoir faire. Donc, elle va devoir s'organiser face à tout ça, à la fois en agissant sur le terrain de la plateforme, on en a parlé avec Salto, mais aussi en rendant ses rendez-vous encore plus forts et en appuyant sur ce lien social.
Il y a quand même des choses qui sont en train de changer. Vous prenez un exemple à France Télévisions, prenez une émission La Maison des Maternelles. Comme ouais. il dit dans le sujet, ça fait un score correct, c'est le matin, 120 000 téléspectateurs. Mais ce qui est stupéfiant, ce sont ensuite les vues sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur YouTube, parfois 5 millions de vues. Pour une émission, parfois 9,3 millions de vues, alors que l'émission fait 120 000 personnes en linéaire. Je veux dire, c'était Fille ou Garçon, la surprise, qui a fait 9,3 millions de vues. Vous pourriez faire une émission Jacques Cardoz qui ne soit plus diffusée en linéaire, seulement sur Internet.
Mais je ne le souhaite pas et je ne crois pas que ce soit dans la stratégie actuellement des dirigeants de France Télé. Je sais que la stratégie, au contraire, c'est de faire en sorte qu'on ait des rendez-vous récurrents. Mais d'un autre côté, il y a toute une autre stratégie qui consiste à être beaucoup plus fort sur le numérique. Et vous avez raison. Et nous-mêmes, on le voit, nos émissions. Parfois, nous on fait à peu près 1 million de téléspectateurs, mais il y a à plus 6, dans J plus 6, on a 10 à 15% de plus de téléspectateurs, dont 100 à 150 000 de plus dans la semaine. Mais dans le même temps, on peut avoir sur Facebook 1 500 000 personnes qui ont vu un sujet et ce n'est pas forcément du tout les mêmes. Donc c'est ça aussi le match, c'est qu'on a nos téléspectateurs à nous en linéaire, mais il y a aussi tout un autre public à conquérir et qui lui est sur le numérique, sur des jeux vidéo, sur tout un tas de choses.
Et je peux vous dire que le sujet sur Fortnite, il va être vu sur les réseaux sociaux. Vous restez avec nous, Jacques Cardoz, on n'a pas encore parlé de Stéphane Courby, on va en parler.
Ouais. Quel est l'avenir de la télévision? Netflix va-t-il tuer la télé? Fortnite est-il le monde parallèle des ados? Ce sont les thèmes abordés ce soir dans Complément d'enquête sur France 2. On retrouve son présentateur Jacques Cardoz pour continuer à en parler dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Jacques Cardoz qui est l'invité de Culture Média pour parler du complément d'enquête de ce soir, diffusé sur France 2 à 22h52, où on s'intéresse à la télévision mise à mal par Internet et les plateformes de vidéos à la demande, Philippe.
Il y a également dans l'émission un portrait de Stéphane Courby, c'est un Français qui en passe, son nom est très peu connu, dans le grand public, en passe de devenir le numéro 1 mondial de la télé. Chaque jour à la télé française, il y a 6 heures de programmes produits par sa société ou une filiale. Vous pouvez en citer quelques-uns, Jacques Cardoz?
Oui, on a une formule pour ça. Stéphane Courby, c'est l'homme qu'on ne connaît pas, mais on connaît forcément ses émissions. C'est Koh-Lanta, c'est Fort Boyard, c'est Les Jeunes Nagui, c'est La Ferme Célébrité, c'est Love Story dont vous avez parlé tout à l'heure.
Mais ce n'est pas seulement la télévision populaire, parce qu'il y a également la quotidienne d'Arte, l'émission 28 minutes présentée par Elisabeth Quint. Mm-hmm. C'est aussi Banijay, donc la boîte de Stéphane Courby. Alors au début des années 90, je vais raconter son histoire, Stéphane Courby devient le bras droit de Christophe de Chavannes après avoir été son stagiaire en quelques années. À l'époque, de Chavannes est une star montante de la télé et Courby lui invente deux émissions, Ciel mon mardi et Combien ça coûte. Il a seulement 26 ans mais il veut aller plus loin et il propose à de Chavannes de s'associer avec lui. Mais de Chavannes l'a envoyé bouler, il ne voulait pas partager. Et finalement, Stéphane Courby s'associe avec une sorte de pestiféré à l'époque, c'était Arthur, qui se présentait à l'époque comme le plus con de la télé. Et il en a fait la star que l'on sait avec La Réussite qu'on sait. Et vous avez obtenu, dans Complément d'enquête, une interview très rare, sur un propos très rare, je veux dire, de Chavannes, qui raconte ses regrets de ne pas avoir accepté la proposition de son ex-stagiaire. Et c'est la première fois que je vois Christophe de Chavannes aussi ému, ça se voit à l'image, et avouer publiquement ses regrets.
Je dis pourquoi pas. Puis je dis écoute, on y réfléchit. Puis il me dit ouais. Je dis mais en quel terme, comment ça se passe? Il me dit on monte une boîte 50-50. Bon, je fais quand même, Stéphane. Je réfléchis juste en me disant. Ok, pépère, je t'ai tout montré, 51-50, c'est déjà pas mal. 51-49, pardon. Et il me dit non, 50-50. J'écoute, on réfléchit, on se donne 8 jours, 15 jours, on réfléchit, voilà. Je passe là-dessus. Et le fait que je résiste avec ce 51 pourri, là, il a dû se dire ça va être compliqué. Sûrement.
Christophe de Chavannes qui parle d'un 51 pourri, on sent qu'il regrette toujours. Et juste pour situer, le groupe de Stéphane Courby, Banijay, pèse désormais plus de 3 milliards. De dollars, 3 milliards. Il a refusé de s'associer avec lui. La fin du reportage, on voit Stéphane Courby, on passe de devenir le numéro 1 de la télé après avoir acheté son principal concurrent Endemol Shine, qui est 3 fois plus gros que lui. La facture, c'est 2 milliards d'euros. Ouais. Et le reportage se termine là. Et là, c'est dommage.
Comment a-t-il pu trouver 2 milliards d'euros? Et comment se fait-il que ce soit le petit qui mange le gros? Normalement, c'est le gros qui mange le petit.
Eh oui, mais ça veut dire qu'il a beaucoup de talent et de force de persuasion. C'est vrai que le gros, il est 3 fois plus gros que lui.
Ouais.
Et en fait, il a fait ce qu'on appelle une levée de dette. Quand vous allez à la banque et que vous empruntez, en général, vous le faites sur du capital. Vous pouvez le faire aussi sur de la dette. Et il a emprunté 2 milliards rien qu'en levant de la dette, un peu de la même façon que ce qu'avait fait M. Draghi pour SFR.
Ouais.
Mais en fait, vous ne pouvez le faire que lorsque les gens qui sont en face de vous croient beaucoup en votre projet et que vous apportez des garanties avec des gens qui sont solides. Et les gens qui l'entourent, Stéphane Courby, c'est des Vincent Bolloré, c'est des Marc Ladré de la Charrière, c'est la famille De Agostini, c'est Nicolas Sarkozy aussi, qui est quelque part dans le conseil d'administration. Il est présent, ça a du poids. Donc comme il a tout un entourage autour de lui de gens qui sont solides financièrement, mais qui vont, et c'est ce que raconte magnifiquement bien Julien Daguerre, qui est l'un de nos meilleurs reporters et qui avait, vous en souvenez, fait le portrait de Carlos Ghosn ou de Benalla. Et ben, il sait magnifiquement bien raconter tout ça, et donc c'est un petit bonbon qui se déguste avec plaisir.
La marque de complément d'enquête Jacques Cardoz, c'est les deux fauteuils rouges. Il y aura qui dans ces fameux fauteuils?
Ah, Thierry Ardisson.
Ah oui.
Thierry Ardisson.
Qu'est-ce qu'il vous raconte, Thierry Ardisson? Parce que
c'est un super coup. Merci à Caroline Durand, qui est la journaliste qui s'occupe de nos invités. Et Thierry Ardisson, d'abord, il a un regard. Moi, ce que je voulais, c'était avoir ce regard sur comment évolue cette télévision, en termes de... Parce qu'il est producteur, parce qu'il est animateur, et puis parce que lui, il a toujours une dose de culture dans ses émissions. Moi, il m'a toujours bluffé, donc c'est super. On passe 10 minutes et c'est magnifique.
C'est un petit exploit. Sa dernière prise de position publique date d'il y a un an, en juin dernier, quand Ardisson avait été viré de C8 par Bolloré, et il vous a fait une annonce. Mmh. On écoute Thierry Ardisson.
Vous avez travaillé à TF1, à France 2, à Canal, vous venez de le dire.
Ouais.
Et vous avez dit à un moment donné, mais je ne m'interdirai pas de travailler pour Netflix.
Non, je ne m'interdis rien, je suis producteur. Mmh. Bon, je travaille pour les gens qui me payent. Mais si vous voulez, Netflix, je vois bien ce qu'ils veulent. Ça me correspond moins bien que France Télévisions.
Et vous avez des projets éventuellement
J'ai un projet avec France Télévisions, absolument.
Ouais. Et on ne peut pas en parler.
Non, on ne peut pas en parler.
Pourquoi?
Parce que ce n'est pas signé.
Ce serait quelque chose de... De neuf, de nouveau?
De très nouveau, de très disruptif, oui.
Qu'est-ce qu'il vous a dit de plus? Il va faire quoi alors?
Il m'a dit des choses, mais je ne peux pas en parler, ce serait pas sympa.
Mais, donc vous le savez.
Non, je sais. Mais ce que je peux vous dire en tous les cas, ce qui est réel, c'est que franchement, je préférerais le voir sur France Télévisions que sur Netflix. C'est un super projet, c'est très moderne et je n'ai jamais vu ça à la télé.
Ça sera cet été ou à la rentrée?
J'espère à la rentrée.
Merci beaucoup, Jacques Cardoz. Complément d'enquête, je peux vous dire quand c'est ce soir à 22h50 sur France 2 avec cette question. Et si c'était la fin de la télé? Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue. Le journal de la culture dans quelques instants. Notre invité, une star mondiale de la BD, Enki Bilal, pour son livre Nu avec Picasso, récit déjanté au sein du musée Picasso. Il y aura son portrait inattendu par Hélène Manarino. Et puis dans Les Indispensables, une série sur Arte, ça s'appelle Domaine, qui va parler de l'histoire portugaise. C'est Margot Barallon qui l'a vu pour nous. Et puis un livre routier, Le quotidien des routiers. Et c'est Nicolas Caro qui l'a lu pour nous. Mais d'abord, le journal de la culture, juste après ça.